French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Expat, le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, Noël c'est dans moins d'une semaine et pour fêter ça, j'ai une petite surprise pour vous. Alors si je vous dis Brooklyn, Houston, Portland et Boston, est-ce que ça vous évoque quelque chose? J'ai le plaisir immense aujourd'hui de vous proposer un épisode spécial Noël avec mes acolytes de French Expat, le podcast. J'ai nommé Laetitia, Charlotte et Manon. Bienvenue les filles.
Salut.
Hello.
Salut.
Alors si vous nous écoutez ne serait-ce que de temps en temps, il y a de grandes chances que vous nous connaissiez, du moins nos voix, Laetitia et moi. Si vous avez écouté l'épisode numéro 3, vous avez aussi pu écouter la voix de Manon qui vous a raconté son histoire. Mais nous avons aussi aujourd'hui Charlotte et c'est sa première fois au micro, elle est un peu stressée. Alors bienvenue Charlotte.
Merci.
Comment tu te sens?
Ça va. Je suis avec des filles géniales, ça va bien se passer.
Comment c'est sympa. Je vous propose un petit tour de table virtuel de l'équipe de French Expat, le podcast. On va chacune se présenter, vous dire qui on est, ce qu'on fait dans la vie et pour le podcast, ainsi que d'où on vous parle. C'est parti. Laetitia, tu veux te lancer?
Allez, c'est parti. Donc, effectivement, comme Anne Fleur le précisait, moi, vous connaissez certainement déjà ma voix. Je suis Laetitia, je vis maintenant à Grenoble après avoir vécu plusieurs années à Portland, en Oregon. Ce que je fais dans la vie, je suis responsable événementiel et ce que je fais dans le podcast, principalement, je suis co-host du podcast, co-créatrice avec Anne Fleur et voilà.
Merci beaucoup, Manon.
Oui, alors donc moi c'est Manon, j'habite à Houston au Texas. Avant j'habitais à Syracuse dans l'état de New York. Ceux qui me connaissent savent que j'en garde de très bons souvenirs. Et j'ai également habité en Oklahoma où j'ai fait mes études et un petit peu en Californie. Et au niveau du podcast, je m'occupe des réseaux sociaux.
Merci beaucoup. Charlotte, à ton tour.
Donc, je suis Charlotte. Je vous parle depuis Brooklyn, un des cinq quartiers de New York. Et je suis à New York depuis septembre 2018. Nous sommes venus ici pour le travail de mon mari. Et pour le podcast, je suis chargée de production. Donc, c'est moi qui réponds aux mails et qui prépare les rendez-vous des interviews.
Tu fais ça d'ailleurs très très bien, Charlotte. Donc moi, c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston, donc pas très très loin de chez Charlotte. Hein. On est tout droit au nord, le long de la côte, à peu près une heure d'avion et un peu plus long en voiture. Je suis aux États-Unis depuis 8 ou 9 ans et comme le disait Laetitia, j'ai donc co-créé ce podcast avec elle. Et voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon alors, sans transition, aujourd'hui on est le 19 décembre, c'est un épisode spécial de Noël. Comment ça se prépare Noël par chez vous les filles? Je pense notamment à Manon. Comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on se met dans l'ambiance de Noël alors qu'il fait 30 degrés dehors?
Alors c'est assez difficile de se mettre dans le mood parce que j'avoue que là je suis en jupe et en débardeur, hein, il fait très très beau. Mais les décorations de Noël sont dehors depuis à peu près un mois donc ça aide.
Bon alors, j'ai clairement du mal à me projeter parce qu'ici ça s'appelle sévère. En tout cas, merci. Et j'imagine, les filles, je vous propose qu'on fasse un petit tour des US puisqu'on est toutes les quatre basées ou anciennement basées aux États-Unis. On est vraiment nord, sud, est, ouest et qu'on puisse discuter un petit peu justement de à quoi ça ressemble Noël, la magie de Noël, l'ambiance de Noël dans nos villes et nos régions respectives. Charlotte, ça te dit de commencer à New York ?
Avec plaisir. Alors ici, Noël, c'est partout, c'est à tous les coins de rue. L'esprit de Noël a réellement commencé après Thanksgiving, après la parade de Macy's. Et c'est surtout commencé avec l'illumination du sapin du Rockefeller Center qui a eu lieu le 4 décembre. Et cette tradition a commencé en 1931. Elle est diffusée depuis 1951 à la télé. Et chaque année, en fait, le sapin qui est choisi fait l'objet d'un choix vraiment minutieux, puisqu'il faut qu'il fasse une moyenne de 25 à 27 mètres de haut. Donc, c'est un événement super sympa à voir, l'arrivée dans New York et ensuite l'illumination.
D'accord. Alors, tu as eu l'occasion, toi, d'aller le voir ?
Alors, non, je ne l'ai pas vu en direct. On l'a regardé à la télé parce qu'il y a un monde de folie pour l'événement. Et je suis pas très très foule à la base, donc j'ai préféré le voir tranquillement à la maison, depuis la maison. Et pour l'anecdote, en fait, cette année, le sapin qui a été offert provient d'un jardin d'une habitante de l'État de New York, de la ville de Florida. Et le sapin fait un peu plus de 25 mètres et elle l'avait planté dans son jardin il y a plus de 50 ans.
Excellent, excellent, excellent. Alors Charlotte, dis-nous, est-ce qu'il y a un truc qui t'a particulièrement frappé ou même, je ne sais pas, choqué à propos des festivités de fin d'année à New York ?
Choqué, non. Marqué, c'est... Il y a l'ambiance de Noël, elle est vraiment partout. C'est super agréable quand on aime Noël, même pour ceux qui ne l'aiment pas. Je pense que c'est super sympa de voir ça depuis l'extérieur. Et voilà, quand on aime Noël, c'est génial.
En New York, the place to be pour Noël.
Ouais, je pense. C'est super sympa à faire. Et il y a des marchés de Noël partout, il y a de la musique. Vraiment, faut venir pour voir ça au moins une fois. Et donc, Laetitia, tu es host sur le podcast de French Expat. Est-ce que tu peux nous dire comment on choisit nos invités ?
Oui, pas de souci. D'ailleurs, c'est une question qui revient assez régulièrement. Donc, les invités, alors en fait, il y a ceux qui se font connaître par rapport, qui nous envoient un message sur les réseaux sociaux, sur l'adresse email. Alors, c'est vrai qu'on avait commencé, quand on a créé le podcast avec Anne Fleur, étant toutes les deux expats, ou pour ma part, ancienne expat aux États-Unis, on avait une grosse communauté aux États-Unis. Donc, on a commencé par enregistrer des épisodes pas mal aux États-Unis, mais toujours avec la volonté d'agrandir cette communauté d'expatriés et vraiment d'enregistrer des épisodes avec des gens à travers le monde. C'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur.
Mais c'est quelque chose que vous faites vraiment très bien, je trouve, pour les écouter depuis le début, d'offrir la possibilité d'écouter des expats des quatre coins du monde.
Ouais, voilà. On avait vraiment cette volonté dès le départ. Et puis, au-delà du fait qu'on a enregistré plusieurs épisodes avec des expats, on va dire d'Amérique du Nord, on commence à avoir aussi d'autres demandes. Pour des expatriés d'ailleurs dans le monde. On est parti au Qatar, en Australie, en Amérique latine et il y a plein d'autres destinations à venir très prochainement.
Ah super. Et du coup Laetitia, si quelqu'un est intéressé pour participer au podcast, qu'est-ce qu'il doit faire ?
Alors, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Manon se fera un plaisir de vous orienter vers un formulaire pré-interview qu'on a établi. Et donc, si vous pouvez remplir ce formulaire, ça nous donne déjà quelques informations sur votre aventure d'expatrié ou future aventure d'expatrié. Ensuite, Charlotte reprend le relais, vous contacte, potentiellement vous posera quelques questions supplémentaires pour approfondir. Et puis ensuite, on essaiera de trouver un rendez-vous qui conviennent à Anne Fleur ou à moi-même
pour une interview,
pour réaliser et enregistrer l'interview. En sachant qu'on a de plus en plus de demandes et comme je le disais, c'est vrai qu'on essaie de varier un petit peu les destinations. On a pas mal de demandes des États-Unis et de, du Canada, mais on essaie voilà, de privilégier un petit peu aussi des pays que nous n'avons pas encore explorés.
Super, merci pour ces informations supplémentaires.
Merci à toi.
Oui, alors maintenant qu'on en sait plus sur comment est-ce qu'on choisit nos invités, est-ce que Charlotte, on pourrait revenir un petit peu au vif du sujet qui était Noël? J'ai cru comprendre que tu avais fait quelques petites recherches sur les traditions de Noël en Islande. Tu peux nous en dire un peu plus?
Nous partons en Islande pour découvrir les Yulad. Ce sont des petits trolls joyeux et espiègles qui viennent 13 nuits avant Noël pour déposer des présents ou des pommes de terre pourries dans les chaussures des enfants,
sympa.
Selon s'ils ont été, ouais, sympa, hein. Selon s'ils ont été bah, sages ou désobéissants toute l'année. Et donc, ces petits trolls ont des, sont vêtus d'un costume traditionnel islandais et leur nom est en fonction de leur activité tout au long de l'année. Donc, il y a le claqueur de porte, le voleur de bougies, le lécheur de bol. Donc, cette tradition perdure encore. Et 13 nuits avant Noël, chaque soir, les trolls défilent dans les rues islandaises.
Et donc, c'est un petit peu la version islandaise du Elf on the Shelf qui fait des conneries.
Exactement. Qui fait des bêtises, qui apporte des petits présents aux enfants.
Excellent. Excellent, excellent. Elf on the Shelf, du coup, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que Laetitia, je crois que tu le fais avec tes enfants. Tu peux nous raconter vite fait ce que c'est?
Oui, effectivement. Alors, Elf on the Shelf, je crois que ça vient d'Amérique du Nord, hein, d'ailleurs. Et en fait, c'est un petit elfe qui débarque chaque année. Alors, nous, en tout cas, on le fait débarquer le 1er décembre avec un petit déjeuner du Pôle Nord, qui n'a rien de spécifique. Hein, on prévoit plus ou moins ce qu'on veut pour ce fameux petit déjeuner, mais voilà, moi je fais une petite déco. Donc c'est un elfe qui vient en fait un peu espionner les enfants, alors selon le livre, voilà, qui vient espionner un peu les enfants pendant le mois de décembre et qui chaque nuit repart au pôle Nord pour raconter au Père Noël, à Santa, j'allais dire en anglais, comment se sont comportés les enfants pendant la journée. Et du coup, le petit plus, c'est que effectivement chaque nuit on le met en scène dans une situation un peu cocasse ou jouant avec les jouets des enfants, en train d'escalader le sapin de Noël, ou voilà, ça peut être vraiment tout et un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a parfois du n'importe quoi. Je vous invite à regarder les réseaux sociaux et à taper le hashtag Elf on the Shelf parce qu'il y en a qui se lâchent un petit peu. Du coup, voilà, c'est une tradition sympa. Moi, je l'utilise pas du tout dans l'esprit d'espionnage parce que ça correspond pas à mes valeurs, mais je le mets en scène chaque soir avant d'aller me coucher. Et les enfants sont très contents de le retrouver le lendemain matin en train de faire quelque chose d'un peu différent. Et moi, ma tradition personnelle, un tout petit peu plus personnelle, c'est que j'utilise aussi l'elfe comme prétexte pour remplir en fait le calendrier de l'Avent, parce que j'ai un calendrier de l'Avent perpétuel, on va dire, donc c'est des petites cases en bois, et c'est lui qui remplit les cases du calendrier d'Avent chaque nuit, parce qu'en fait ma fille serait trop pressée de l'ouvrir, d'ouvrir tout le calendrier en fait dès le 1er décembre. Donc, on a instauré ça depuis l'année dernière. L'elfe remplit la case chaque nuit. Comme ça, voilà, elle peut ouvrir les autres cases. Il n'y a absolument rien dedans. Et ça permet de patienter un petit peu mieux pour les enfants.
Ah, pas bête. Pas bête du tout. Bon, et alors, du coup, ça m'amène un peu à te demander. Donc, toi, Laetitia, OK, t'es rentrée donc, à Grenoble, en France, il y a à peu près 2 ans. Mais t'étais à Portland, donc dans l'Oregon, sur la côte ouest. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble les fêtes de Noël dans l'Oregon, à Portland?
Alors, moi, ce que je dirais, alors je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce que disait aussi Charlotte, même si moi je suis pas à New York, c'est une ville qui est beaucoup plus petite, mais je trouve que ce qui est vraiment flagrant aux États-Unis par rapport en France, c'est vraiment toutes les décorations et toutes les maisons en fait qui sont hyper décorées pour Noël. Et puis en fait la différence avec la France, c'est que aux États-Unis les maisons ont ce qu'on appelle un front yard, donc un jardin devant la maison, et contrairement à la France, c'est pas cloisonné, c'est pas clôturé, et on voit en fait quand on se balade dans les rues des différents quartiers, on voit généralement l'intégralité voilà, du jardin de devant, de la maison, etc. Du coup, voilà, c'est vraiment un truc qui m'a énormément surprise. Alors pour Halloween aussi d'ailleurs, mais pour Noël, c'est assez impressionnant. Un autre petit truc aussi qui m'a surpris, c'est que souvent quand on regarde des films américains et que c'est des films sur Noël, il y a toujours ce fameux grand sapin super bien décoré et genre devant une fenêtre pour que genre tout le voisinage le voit. Et en fait c'est vrai quoi, c'est dans la réalité c'est avéré, souvent les gens font ça devant la fenêtre. Alors je pense pas que ce soit pas pour show off.
Pour crâner.
C'est pas pour être prétentieux ou pour crâner, mais c'est peut-être le meilleur emplacement qu'ils aient dans leur salon pour mettre le sapin. Et du coup, j'adorais en fait me balader dans les quartiers et voir un petit peu les sapins chez les voisins, quoi.
Espionne.
Ouais, carrément. Du coup, voilà, après, c'est vrai que Portland, pour nous, Portland et Noël, alors on n'est jamais rentré des 4 ans et demi qu'on a été à Portland, on n'a jamais eu l'occasion de rentrer pour Noël, les billets étant souvent trop chers. Et du coup, pour nous, Noël à Portland, c'était souvent synonyme, en fait, de Noël entre amis. Et c'était très sympa et c'était pas très prise de tête finalement des fois par rapport à des grands repas de famille où ça demande une organisation un petit peu plus complexe, c'était un peu plus bonne franquette. Et je me rappelle juste de notre dernier Noël à Portland, donc Olivia avait un peu plus d'un an, et malheureusement ça a été un Noël, enfin une journée de Noël le 25, que Loïs a passé aux urgences avec Olivia, et ça c'était pas très très cool. Mais finalement pour une journée de Noël, il s'en est assez vite tiré.
Le pauvre, enfin plutôt la pauvre, heureusement qu'à cet âge-là, on ne se souvient pas forcément de Noël. Et alors tu parlais de sapin de Noël, et c'est vrai qu'il y a une tradition aussi qui est très chouette aux États-Unis, qu'on voit plutôt dans les films. Moi en tout cas, j'avais jamais vraiment connu ça en France, mais peut-être qu'il fallait juste que je sorte de chez moi. C'est que tu vas pas acheter forcément ton sapin, enfin tu peux l'acheter dans un magasin, mais tu peux aussi en fait aussi débarquer avec ta scie et aller le couper. Tu voulais nous en dire un peu quelques mots?
Oui, carrément. Alors, donc, effectivement, c'est le you cut. Et au départ, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est tu coupes. Donc, il existe des fermes à sapins. C'est-à-dire, vraiment souvent, c'est retiré, de la vie. Donc, faut rouler un petit peu pour trouver ces fermes-là. Et c'est des fermes qui cultivent les sapins à longueur d'année, en fait. Et quand arrive le mois de décembre ou fin novembre, on peut y aller avec sa scie et se balader dans, la plantation de sapin et choisir le plus beau sapin pour nous et puis le couper. Alors soit on y va avec sa scie, soit d'ailleurs ils en prêtent aussi, généralement les propriétaires de la ferme en prêtent. Et du coup voilà, on peut vraiment, j'ai trouvé que c'était super sympa parce que ça change un peu d'aller l'acheter sur le parking d'IKEA par exemple ou dans un magasin, ça rend l'expérience un peu plus authentique.
Moi, ça me fait toujours penser à ce film, mais qui n'est pas forcément très connu en France, mais qui est un peu un classique ici. Je ne sais pas si vous connaissez Les Filles Christmas Vacation, qui date du début des années 90, à peu près la même période que Home Alone, donc Maman, j'ai raté l'avion. Et en fait, une des premières scènes du film, en gros, c'est l'histoire, c'est un père de famille. Toute la famille débarque, donc ses beaux-parents, ses parents, il a ses enfants, enfin il y a tout le monde. Et il veut vraiment, en gros, faire un Noël, un peu cliché, quoi, un truc génial où il y a toutes les belles lumières, il y a un superbe sapin, il y a de la bonne cuisine, enfin bref. Et donc il y va vraiment à fond. Et une des premières scènes du film, en fait, c'est qu'ils sont tous les quatre, donc les parents avec les gamins à l'arrière de la voiture, en voiture pour aller chercher ce sapin, ce fameux sapin dans la forêt. Et bref, en fait, il arrive au bord de son sapin, les enfants sont frigorifiés, ils sont bleus, ils n'arrivent même plus à bout. Tu crois, ils ont de la neige jusqu'à la taille et le père a oublié la scie. Donc c'est bien que tu dises qu'en fait maintenant on peut avoir une scie directement. Moi je suis jamais allée en acheter un là-bas et j'avoue que j'aimerais bien aller tester.
Ah ouais, je recommande parce que c'est vraiment chouette comme expérience et oui, en tout cas nous quand on y a été, on n'avait pas de scie et on nous en a prêté une. Ils prêtent même des fois des tronçonneuses, mais bon ça je recommande pas si on ne sait pas trop s'en servir.
C'est un peu extrême comme tout ça. Excellent. Ça prend combien de temps de faire un épisode? C'est aussi une des questions qu'on nous pose régulièrement, du moment où on a trouvé la personne qu'on va avoir sur un podcast. Et peut-être que Charlotte et Manon, vous voulez aussi en discuter. Ça prend combien de temps du coup, donc du moment où on trouve l'invité jusqu'à la publication de l'épisode, pour donner un petit peu une idée de...
Du travail que ça représente, ouais. Ouais. Alors moi je vais parler pour la partie production, c'est-à-dire alors il y a effectivement une partie amont et c'est Charlotte qui s'en occupe de gérer toute la relation avec l'invité, de caler le rendez-vous, etc. Du coup d'ailleurs Charlotte, est-ce que tu veux dire à peu près combien de temps ça te prend pour un invité, un épisode?
Ça dépend, c'est assez aléatoire en fonction de la réactivité des gens. D'ailleurs je remercie nos invités à qui j'envoie des mails parce que ils sont toujours super réactifs. Et donc, entre le moment où on reçoit les réponses au pré-formulaire, je renvoie un mail, on trouve une date, en moyenne, il se passe quelques jours. Par contre, ensuite, il y a l'interview et la réalisation de l'épisode. Et donc ça, c'est Laetitia et Anne Fleur qui pourront vous en dire un peu plus.
Alors, moi, sur cet aspect-là, sur la partie donc enregistrement, bah, faut généralement compter au moins une heure, parce que nos épisodes font pour la plupart... Enfin, corrige-moi si je me trompe, Anne Fleur, mais je pense qu'ils font à peu près, on va dire, 50 minutes en moyenne.
Ouais.
Et du coup, voilà, donc faut compter au moins une heure d'enregistrement entre le moment où, voilà, on se connecte avec l'invité, on papote 5 minutes, on enregistre, on lance l'enregistrement, tout ça. Et après,
Oui, alors, je me permets de t'interrompre, Laetitia.
Ça marche très, très bien, le fait de se connecter, de papoter 5 minutes dans les pays, genre en Europe, aux États-Unis. Mais alors, plus on va loin, plus on a des problèmes techniques quand on se connecte sur la plateforme d'enregistrement. Je sais pas si toi, ça t'arrive aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile.
Effectivement. Oui, oui, bah, effectivement, ça m'est arrivé quelques fois, notamment en Chine, et une autre fois en Afrique, où on a eu des soucis, on a dû changer de plateforme, etc. Donc, bon, bah voilà. Donc, on va dire, il faut compter à peu près une heure, mais si problème technique, à mon avis, on passe plutôt à une heure et demie pour l'enregistrement. Et après, en post-production, pour tout ce qui est montage, moi, personnellement, pour un épisode d'une heure, il me faut probablement 2 heures supplémentaires. Ouais, je dirais 2 à 3 heures pour vraiment avoir finalisé complètement l'épisode et qu'il soit prêt à... Ça veut dire aussi télécharger sur le site, que tous les descriptifs soient écrits, etc. Ouais, je dirais encore, ouais, pas loin de 3 heures, honnêtement.
Ouais, moi, c'est pareil, en comptant l'écriture de tous les textes, même un peu plus. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est Manon qui prend le relais. Tu veux nous raconter un peu, Manon, ce que tu fais ?
Oui, alors moi, je suis d'ailleurs aussi même parfois premier contact, puisque j'ai beaucoup de personnes qui nous contactent sur les réseaux sociaux, à qui je renvoie le formulaire, et ensuite Charlotte prend directement le relais, et ensuite je suis également tout à la fin, une fois que les épisodes sont, enfin que l'épisode est en diffusion, moi je me charge de faire toute la promotion donc sur nos réseaux sociaux, qui sont Instagram, Facebook, LinkedIn et Mapster, donc voilà.
Et ça te prend combien de temps à peu près pour, disons, pour un épisode? Une fois que tu as fait toutes ces publications, tu estimes à combien de temps de temps passé?
Je sais pas, franchement, c'est difficile à dire.
Surtout qu'après, tu réponds aussi à tout le monde qui vient commenter les épisodes avec nous sur les photos aussi.
Alors, je dirais que pour un épisode, par exemple, je vais créer des visuels, donc les 3 vignettes qu'on peut retrouver sur Instagram. Donc ça... ça me prend un petit peu de temps, mais comme j'ai des templates qui sont déjà créés, en général, c'est assez vite fait. Je mets la photo de l'invité. Charlotte, en général, s'est occupée de récupérer les photos donc des invités, leurs portraits, et également une photo donc de la ville ou le pays où ils habitent. Donc ça, c'est assez vite fait. Et après, je dirais qu'en effet, sur la gestion des réseaux sociaux, ce qui prend le plus de temps, c'est répondre aux commentaires, répondre aux messages qui nous ont été envoyés directement, répondre aux questions, etc. Donc ça, c'est aléatoire quand on a des petits gift challenge, par exemple, comme on a fait là pour Noël. On a énormément, du coup, de messages. Donc là, ça prend un peu plus de temps, mais... c'est vrai que c'est difficile à comptabiliser au total parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose où en fait on y est plus ou moins toute la journée en alternative, quoi. Donc j'essaie d'être active, donc j'y suis très souvent, mais souvent pas très longtemps.
Superbe, écoute, c'est une bonne explication, merci beaucoup. Ouais, alors justement, tout ça m'amène à vous annoncer quand même une nouvelle. Vous le savez, on a lancé le podcast donc début octobre, le 7 octobre exactement. À l'époque, c'était un épisode tous les lundis. On a décidé rapidement, suite à votre demande, de sortir 2 épisodes par semaine, tous les lundis et tous les jeudis, ce qui représente une charge de travail conséquente pour toute l'équipe, hein, pas que pour Laetitia et moi. Bon, on est obligé de se rendre un petit peu à l'évidence, c'est que ça représente quand même énormément de travail, sachant qu'on a toutes nos familles et un boulot à temps plein à côté, et honnêtement, c'est pas facile à gérer. Donc du coup, pour conserver la qualité des épisodes, pour ne surtout pas compromettre la qualité du podcast, on a décidé de repasser à partir donc de début janvier à 1 épisode par semaine. On a énormément de super épisodes qui arrivent, des destinations assez folles. Et j'espère que vous serez toujours présents au rendez-vous. Laetitia, pour finir avec toi, je sais que tu avais préparé aussi une petite tradition de Noël que tu voulais nous raconter. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, en fait, j'ai même deux mini traditions. Alors la première, c'est pas tellement une c'est pas tellement une tradition, c'est plus un fun fact. En fait, il existe vraiment une adresse du Père Noël. En fait, on peut lui écrire et apparemment c'est gratuit selon mes sources. C'est une adresse qui est au Canada et on peut lui envoyer un courrier. Et si on lui écrit avant le 16 décembre, et dans plus de 30 langues différentes, y compris le braille d'ailleurs, je précise, le Père Noël répond apparemment.
Excellent.
Donc voilà. Et apparemment, il n'y a pas non plus besoin d'affranchir la lettre, puisque c'est le Père Noël et que c'est magique. Donc voilà, l'adresse c'est Père Noël, virgule, Pôle Nord, H0H, 0H0, virgule, Canada.
Très bien.
Voilà. Avis aux amateurs qui souhaiteraient envoyer leurs lettres. La deuxième, en fait, c'est une histoire de cornichon. Alors, je sais que ça paraît totalement loufoque, mais dans plusieurs pays, en fait, le cornichon est associé à Noël comme un signe de cadeau supplémentaire. Et donc, parfois, certains mettent dans leur sapin un ornement, donc comme on mettrait une boule de Noël, il y en a qui mettent un cornichon accroché dans leur sapin. Et alors, soit...
sentir bon.
c'est un faux, hein, on est bien d'accord. Et soit la personne qui le trouve reçoit un cadeau supplémentaire, ou simplement c'est un signe de bonne chance et d'abondance, j'imagine, pour l'année à venir, je ne sais pas. Donc voilà.
Excellent. Merci beaucoup Laetitia.
Avec plaisir.
Alors... je voudrais continuer un petit peu notre tour des États-Unis. Alors, c'est rigolo parce que c'est vraiment pas fait exprès, mais finalement, quand on regarde une carte des États-Unis, on a un peu nord, sud, est, ouest entre nous quatre. Et alors, moi, personnellement, ça me titille pas mal de savoir comment ça se passe chez Manon. Parce que toutes les trois, là, Laetitia, Charlotte et moi, on a toutes vu de la neige déjà et on est en décembre. Manon, elle est toujours en claquette. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce qu'on se prépare à Noël ? À quoi ça ressemble Noël ? Quelles sont les traditions ? Qu'est-ce qui t'a frappé ? Qu'est-ce qui t'a peut-être déçu, même j'en sais rien, à propos de la saison des fêtes de Noël à Houston ?
Oui, alors tu crois pas si bien dire, mais en effet, je suis bien en claquette.
Ah, oh, la saloperie.
Alors moi, je voulais vous parler donc de Noël, on va dire, dans la Bible Belt. Donc la Bible Belt, pour ceux, ça va vous ramener un peu à vos cours d'histoire géo. La Bible Belt, en fait, c'est ce qu'on appelle ce regroupement d'États qui sont très très religieux, et donc le Texas et l'Oklahoma font partie. Il faut savoir que donc moi j'ai étudié en Oklahoma, et c'est là que j'ai rencontré mon mari qui est américain, et c'est là où habite toujours ma belle famille. Donc je fête très souvent Noël en Oklahoma. Mais ils sont d'ailleurs originaires du Texas, donc on va dire que c'est une façon très similaire de célébrer Noël. Et je voulais vous parler un petit peu du Noël typique dans les banlieues américaines. Donc si vous imaginez un peu le quartier à la Desperate Housewives, vous voyez toutes les maisons assez similaires. Alors c'est un peu ce genre de quartier dans lequel habite ma belle famille. Et en fait, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit toujours, comme les filles en ont parlé auparavant, des super belles décorations. Enfin, faut dire que les Américains sont vraiment à fond pour tout ce qui est décoration de Noël. Et en fait, souvent, elles sont installées par des professionnels dans ces quartiers-là. Donc, moi, par exemple, dans le quartier de ma belle-mère, on peut voir à peu près aux alentours de Thanksgiving, voire même un peu avant, vers Halloween, tout ça. On va voir des pubs, en fait, les promoteurs vont poser des pubs à l'entrée des quartiers pour proposer d'installer les décorations de Noël. Et alors, c'est assez rigolo parce que les slogans, c'est un peu du genre « tu veux pas que tes décorations de Noël ne soient pas droites » ou « que ton voisin ait des plus belles décorations que toi ». Donc, c'est assez drôle parce que c'est des banlieues où les gens sont très, très accueillants, très sympas, c'est très communautaire. Mais en même temps, il y a un petit peu, je pense, une compétition un peu voilà, au niveau des décos de Noël entre les voisins.
La plus belle maison.
Ouais, un petit peu. Et puis, la plus belle voiture, la plus grosse voiture, les choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça dans les banlieues. Mais en même temps, ce qui est assez sympa, c'est que c'est des voisins qui sont en général très chaleureux. Et aux alentours de Noël, en général tout le mois de décembre, c'est pas rare d'avoir un voisin qui toque à ta porte parce que il a fait des cookies de Noël, il a fait un gâteau, il a fait un plat de lasagne, et il veut partager. Donc ça,
c'est vraiment comme dans les films.
Ouais, vraiment. Et puis d'ailleurs, bah, moi à Houston, je le ressens aussi. Là, nous, on est en appartement, donc on est dans une résidence. Et bizarrement, je suis ici depuis 6 mois. J'ai beaucoup plus échangé avec mes voisins ici en 6 mois que en des années quand je faisais mes études à Clermont-Ferrand. Clairement, j'avais aucun contact avec mes voisins. Et là, je connais mes voisins, on a échangé les numéros de téléphone. C'est pas rare qu'ils me laissent un petit mot sur la porte, un petit gâteau, quelque chose comme ça. Et à la période de Noël, c'est vraiment très très exacerbé, je trouve. Et ensuite, une autre chose dont je voulais vous parler, par rapport à au fait qu'on se situe dans la Bible Belt, Noël, c'est quand même une fête très très religieuse ici. Donc il y a énormément de personnes qui vont à la messe de Noël. Il y a généralement plusieurs services pour la messe de Noël. Et alors une chose qui m'a je vais pas dire choquée, mais c'est parce que c'est quelque chose que en France, on est quand même un pays très laïque, donc on et moi personnellement dans ma famille, on n'est pas forcément pratiquant sur la religion, et quelque chose qui m'a choquée la première fois dans ma belle famille, c'est le bénédicité à table. Donc le bénédicité, c'est une prière qu'on dit avant de manger. On se tient tous la main, on ferme les yeux et à la fin, on dit amen. Et alors moi je vous dis le premier bénédicité chez vos parents. J'avais l'impression d'être dans Les Tuches. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Tuches.
Oh, la référence.
La mère Tuche, donc quand tout le monde dit amen, elle dit amen. Et j'ai vraiment pensé à ça et j'ai retenu le fou rire. Maintenant, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît assez bizarre parce que c'est pas quelque chose auquel je suis habituée, quoi.
T'as pas grandi avec ça, quoi. Ouais. D'accord. Bon, et tu disais aussi, tu parlais des décorations de Noël, et je me souviens en préparant cet épisode, on discutait un peu voilà des choses dont on allait parler chacune, et tu disais ah bah oui c'est vrai, puis avec toutes ces boîtes qui viennent, les entreprises qui viennent et qui font ta décoration de Noël, et toutes les trois, Laetitia, Charlotte et moi, c'était quoi ? Enfin, on n'a jamais vraiment vu ça. Tu peux nous raconter aussi ça ?
Ouais, c'est assez impressionnant. Alors là, j'ai pas vu l'installation dans les quartiers vers chez nous. Mais on était passé pour Halloween et c'est vrai que voilà tu vois les personnes ils sont sur des échafaudages, il y a une équipe de 10 personnes qui sont donc dans le frontière des maisons comme expliquait Laetitia, donc cet espace jardin qui est ouvert sur la rue et qui est donc devant la maison, et voilà ils sont une dizaine à tout installer et ouais c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que pour moi, les décorations de Noël, c'est quelque chose qu'on fait en famille, c'est un plaisir de partager le moment. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre de voir voilà, toutes les équipes qui se relient dans les jardins. Bon, après, il faut dire que les décorations sont magnifiques. C'est sûr que moi, quand j'étais enfant avec mes parents, on n'aurait pas réussi à faire quelque chose comme ça, c'est sûr.
Ouais, c'est des pros, quoi. dites-moi, Manon, donc tu nous parlais donc des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu fais ? Et je pense en fait notamment à un réseau social qui est un petit peu moins connu, parce que en gros notre grosse communauté French Expat le podcast, elle est sur Instagram. Et il y a un réseau social que tu as lancé il y a quelques semaines qui permet un peu de retrouver tous les bons plans que nos invités nous ont donnés. Tu peux nous raconter un petit peu ?
Oui, alors c'est un réseau social que j'adore d'ailleurs, que j'utilise moi-même au quotidien, qui s'appelle Mapster. En fait, Mapster, c'est une carte du monde dans laquelle n'importe qui peut mettre ses bonnes adresses. Donc on a chacun notre carte du monde personnelle sur laquelle on peut mettre nos bonnes adresses. Et ensuite, on peut suivre des amis ou éventuellement, bah, par exemple, des entreprises, le podcast, des blogueurs, etc. et voir toutes leurs bonnes adresses. Donc nous, au niveau du podcast, si vous écoutez bien les épisodes jusqu'à la fin, ce que j'espère, vous verrez que les filles donc demandent généralement à nos invités quelques bonnes adresses dans leur pays d'accueil. Et du coup, donc moi, je les regroupe sur notre Mapster, ce qui nous permet d'avoir une carte du monde, ce que je trouve génial, avec des adresses qui sont conseillées par des personnes qui vivent sur place. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande chance. Ça sort un peu des sentiers battus. Voilà, je trouve ça super sympa.
Excellent, d'accord. Donc c'est Mapster, c'est une application mobile uniquement, on est d'accord ?
Je sais pas si c'est uniquement mobile, mais en effet, il y a peut-être moyen de l'utiliser sur browser, je n'ai aucune idée.
Bon, bah on regardera. Et donc, si on veut trouver, si on veut nous retrouver sur Mapster, notre compte, c'est French Expat le podcast, comme
ouais,
partout.
C'est ça. Si on veut nous retrouver, c'est French Expat podcast, en effet. Et voilà, rejoignez-nous et puis vous verrez toutes nos bonnes adresses.
Excellent. On le remettra aussi dans les notes de l'épisode pour le retrouver plus facilement. Merci beaucoup. Et alors, donc toi, tu nous as parlé donc de Noël en Oklahoma, dans la Bible Belt, mais tu es aussi vraiment pas loin du Mexique. Et je crois que c'était la région du monde que tu as choisie pour nous raconter un peu une autre tradition, une autre façon de fêter Noël.
Oui, en effet, c'est ça. On est à peu près à, je dirais, 5 heures de route du Mexique ici. Donc on est vraiment pas très loin et d'ailleurs on est même à la même latitude que certaines villes du Mexique. Et du coup, je voulais vous parler de deux traditions du Mexique que je trouvais assez intéressantes. Il faut savoir qu'au Mexique, les festivités de Noël, elles ont lieu du 16 au 25 décembre et en fait, c'est 9 jours qui pour eux symbolisent les 9 mois de grossesse de la Vierge Marie. Il faut savoir que le Mexique est un pays à majorité catholique et encore très pratiquante, donc pour eux c'est quand même une fête avant tout religieuse. Et quelque chose que j'avais noté qui était très intéressant, on connaît tous les piñatas, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est très très populaire en France ou plus dans le nord des États-Unis, mais alors je sais que ici les piñatas pour les anniversaires c'est vraiment très très populaire, la piñata. Donc c'est une espèce de boîte décorée, alors ça peut être en forme de n'importe quoi, dans lesquelles on cache des bonbons, et en général donc on casse la piñata, les bonbons tombent et waouh, tout le monde est content, les enfants mangent les bonbons. Donc ça c'est une tradition qui est très populaire maintenant donc dans le sud des États-Unis et notamment au Mexique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la piñata, en fait, elle est originaire de Chine. Elle a été utilisée donc.
Ah ouais, excellent.
Ouais, elle était utilisée à la base pour célébrer l'arrivée du printemps. Et en fait, c'est le navigateur Marco Polo qui l'a ramenée en Italie. Et ensuite, donc de l'Italie, c'est une tradition qui a beaucoup plu aux Espagnols. Et ensuite, les Espagnols l'ont rapportée au Mexique. Donc, je trouve ça super intéressant de voir quelque chose qui vient de Chine, qui a ensuite voyagé jusqu'en Italie, Espagne, pour arriver jusqu'au Mexique. Et ensuite, donc au Mexique, donc dans la tradition, pour eux, la piñata, elle représente les 7 péchés capitaux. Et en fait, donc, elle est ronde avec 7 pointes ou piques. Et elle est détruite le 24 décembre. Et bien sûr, elle est remplie de bonbons. Voilà, elle est détruite par les enfants le 24 décembre. Donc, on détruit les 7 péchés capitaux, ce qui est assez rigolo puisqu'on finit par manger des bonbons. Ce qui est quand même un péché. Mais et du coup voilà, ça c'est la tradition d'origine au Mexique, mais voilà, ça a dérivé désormais au niveau des anniversaires, etc. Je sais que mon mari m'expliquait, mais tu n'as jamais eu de piñata pour tes anniversaires? Oui, bah toi tu n'as jamais mangé de Kinder Surprise.
Et oui, c'est interdit.
C'est ça.
Excellent. Excellent. Bon, mais écoute, pour ton prochain anniversaire, il a trouvé comment te gâter. Voilà.
Ouais,
merci beaucoup, Manon.
Bon, ben écoute, Anne-Fleur, c'est moi qui prends la parole maintenant pour te poser la question à toi. Comment est-ce qu'on fête Noël vers Boston, à part avec des bonnets, des affaires bien chaudes et des bottes de neige?
Ouais, non, mais alors ça, c'est clair que c'est un prérequis par ici, puisque on est mi-décembre et on a déjà eu plusieurs tempêtes de neige. Alors moi, ce que j'aime beaucoup ici, mais c'est vrai que c'est pas forcément uniquement propre à Boston, c'est en fait, c'est vraiment qu'on est dans le mood de Noël, quoi. Enfin, le lendemain en fait de Thanksgiving, qui est très connu pour être Black Friday, bah c'est aussi en fait un peu le lancement de la saison des fêtes de fin d'année partout aux États-Unis. Et alors, on respire Noël à peu près partout où on va, quoi. Et alors, mon mari, ça le rend fou. Moi, j'adore. J'ai dans ma voiture. la radio satellite là. Et donc il y a une chaîne, et je crois qu'il y a aussi sur les bandes FM, mais donc j'ai une chaîne qui ne diffuse que des chants de Noël pendant un mois. Alors lui, il n'en peut plus.
Ouais, d'ailleurs ça c'est généralement, enfin moi je me rappelle de la radio à Portland, ils organisaient un concours autour de à quelle date on va lancer le premier chant de Noël, et c'était chaque année de plus en plus tôt, limite ils vont faire les chants de Noël avant Halloween maintenant.
Mais c'est clair, c'est parfois c'est un peu infuriating comme ils disent, mais ça reste quand même très bon enfant, et ouais, je sais pas, moi je suis assez fan de Noël. Après, je voulais vous parler effectivement, oui, les décorations de maison, c'est complètement dingue. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des quartiers, des villages en fait, pardon, qui sont, je sais pas, dans un rayon de 30-45 minutes en fait autour de Boston, où les gens en fait viennent en voiture, et il y a la queue carrément en fait à l'entrée des quartiers pour faire le tour en fait donc du quartier et voir les maisons décorées. Et c'est vraiment des gens qui y vont, mais à fond. Je suis du coup maintenant, avec l'explication que Manon a donnée, je me dis c'est peut-être pas fait maison, et c'est peut-être des gens qui le font faire leur décoration. Mais ça m'a toujours fait penser à, tu sais, le truc là qu'il y a à Disneyland, le monde merveilleux des poupées, la musique que t'as dans la tête pendant trois jours après là.
Small World.
Voilà. Small World. Mais c'est un peu ça. On est vraiment tous les uns derrière les autres, et puis on regarde. Ah, oh, regarde, c'est joli. Bref, voilà. C'est très sympa. Après, dans Boston, il y a Beacon Hill qui est génial pour aller observer les décorations d'Halloween. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux. C'est assez magnifique, de la vieille pierre rouge avec des décorations absolument hallucinantes. Ils en font aussi pour Noël. Et il y a un grand parc au centre de Boston qui s'appelle The Commons. Et dans ce parc, alors c'est pas aussi grand que Central Park à New York, c'est sûr, mais c'est un parc historique. C'est d'ailleurs, je crois, le premier parc public historiquement aux États-Unis. Il y a une grande patinoire qui est très chouette, et c'est vrai qu'on y va et on est vraiment, voilà, comme je disais, on est dans le mood. Et il y a Quincy Market, pardon, voilà, Quincy Market, qui est pas très très loin de ce parc, qui est voilà un autre bâtiment historique de Boston. Et là, en fait, on va aller installer le sapin qui est illuminé. Donc c'est toute une cérémonie avec le maire. On va l'allumer. Voilà, c'est un peu comme l'illumination des champs le premier jour, les Champs-Élysées à Paris, avec la mairie, avec une personnalité, etc. Et en fait, ce sapin, ce qui est rigolo, c'est qu'il est offert par la ville de Halifax en Nouvelle-Écosse, donc au Canada. En fait, pour la petite histoire, j'ai découvert ça quand je suis allée en Nouvelle-Écosse. ils ont eu un énorme incendie à Halifax il y a, genre, je sais pas combien, de peut-être 100 ans, 100 ans, 150 ans. Et Boston, en fait, a affrété un énorme bateau pour aller les aider, pour aller les aider à évacuer, pour aller les aider en fait à gérer un peu le post-chaos qui s'est suivi donc de cet incendie. Et en fait, depuis, la ville d'Halifax offre le sapin de Noël en fait de la ville de Boston tous les ans. Donc tous les ans, le sapin vient de Nouvelle-Écosse, et c'est un cadeau. Voilà.
Waouh. Ouais. Chouette. Et alors du coup, toi, Noël, tu le fêtes plus souvent aux États-Unis avec ta belle famille, ou est-ce que vous rentrez en France?
Alors, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Enfin, on rentre très souvent en France. Disons qu'en fait, moi, ma belle famille, donc étant américaine, Thanksgiving est plus un big deal, comme on dit ici. En fait, dans ma belle famille, une de mes belles sœurs et ma belle-mère étant infirmière, elles travaillent très souvent en fait un des deux jours. Et du coup, généralement, elles choisissent de travailler le jour de Noël et de fêter Thanksgiving. Donc, cette année, on le fête tous les trois à Boston, mais sinon, on rentre assez souvent en France.
D'accord, ok. Et quand tu as eu l'occasion de fêter Noël avec ta belle famille, est-ce que tu as remarqué des différences au niveau du repas, des traditions, tout ça?
Les stockings, c'est comme ça qu'on dit? Les chaussettes.
Les chaussettes de Noël.
Et c'est vrai que j'ai instauré ça du coup dans ma famille en France et je leur ai tous offert leurs propres chaussettes. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un truc qu'on voit dans les films, mais pour moi, c'était plus de la décoration. Et en fait, ici, c'est non. On va aller rajouter. Alors, s'il y a des enfants, c'est le Père Noël, bien sûr, qui va aller rajouter des petites choses dans les chaussettes. Et c'est vraiment, c'est des petits trucs. Donc, je sais pas, ça va être un petit chocolat ou un petit gadget. Enfin, c'est des trucs qui sont pas forcément gigantesques. C'est généralement pas le cadeau principal, si je puis dire. Mais Mais voilà, et en fait, on les installe dès le début de la saison de Noël, ça décore, et puis c'est l'occasion d'avoir un cadeau. Et pour la petite histoire, peut-être que c'est grâce ou à cause de ça que Félix, mon petit garçon, est né le jour de Noël, puisque j'avais en fait installé sa chaussette l'année dernière. Et en fait, il a démarré. Voilà.
Il est né le 25 ?
Le 24.
Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, oui, les chaussettes, en fait, je me suis toujours demandé, donc ça tombe bien que t'en parles, je me suis toujours demandé, en fait, ce qu'on y mettait, et surtout quand on y mettait, parce que je me demandais si c'était un espèce de calendrier de l'Avent aussi, ou quoi, enfin, plus qu'on mettait au fur et à mesure du mois de décembre et qu'on ouvrait sa chaussette, entre guillemets, le jour de Noël, ou c'est vraiment juste la veille de Noël ou le jour de Noël que sont glissées des petites gourmandises ou petits cadeaux?
Alors, comme il n'y avait pas d'enfants chez moi, on les mettait à peu près quand on avait le temps, les trucs, mais généralement, en tout cas, voilà, après, moi, j'ai pas fait Noël dans 15 familles, tu vois, mais dans notre famille, c'était le 24, en fait, je sais pas, au moment de se mettre. En fait, généralement, on ouvrait les stockings le 24 et les cadeaux, le Père Noël passait le 25. Et donc, c'était, voilà. Et ce qu'on y mettait dedans, comme je te dis, ça peut être du petit chocolat. Généralement, avec Mike, on se met des petits Ferrero Rocher, des petites choses comme ça. et puis, je sais pas, un petit accessoire, voilà.
Alors du coup, tu nous as toutes demandé une petite anecdote d'un autre pays et de comment on fête Noël dans les autres pays. Alors est-ce que toi, tu as une anecdote à partager également ?
Ouais, carrément. Alors j'ai vécu moi à l'étranger que aux États-Unis, donc les États-Unis, je pense qu'on a fait le tour. Mais dans les pays anglo-saxons, je trouvais que c'était intéressant. En fait, l'autre jour, je parlais avec ma petite sœur, une de mes petites sœurs qui habite en Irlande à Dublin, et je lui demandais justement comment est-ce qu'on fête Noël, comment, enfin, est-ce que t'as observé des différentes coutumes par rapport à la France. Et elle me disait en fait que elle avait été frappée par le Christmas Day à l'université, qui a lieu fin novembre, je crois que c'était le 28 novembre cette année, et le Christmas Day, en gros, c'est on arrête tout, il y a le Père Noël qui, elle, bon, pour l'anecdote, distribue du Red Bull sur le campus, mais voilà, on rentre à fond dans le mood, tout le monde est déguisé en Père Noël, enfin bref, et c'est assez rigolo. Elle était vraiment très frappée par le côté festif qui marquait, bon, d'une part, la fin du semestre pour eux, et le début des révisions, mais aussi du coup le début des festivités. Mais voilà, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, donc je reste en Irlande, et je voulais vous demander, est-ce que vous saviez que le sapin de Noël n'est pas la décoration de choix en Irlande. En fait, à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, je crois, il y avait la décoration, c'était du houx et du lierre qui étaient utilisés donc pour égayer les maisons pendant la saison des fêtes. Et alors, apparemment, en fait, le buisson de houx, il comptait donc plein de baies, là, ces petits trucs rouges. Et donc, plus il y avait de baies, plus l'année suivante serait marquée par la chance. Alors, c'est un petit peu le même principe que ton cornichon, Laetitia.
Ouais, c'est ça. On reste dans,
voilà,
le végétal.
Voilà, tout à fait. Et puis, alors, il y a une autre tradition qui m'a fait un petit peu rire, qui m'a fait sourire, en tout cas. C'est nos amis irlandais qui sont peut-être un tantinet macho. Alors, en fait, la saison de Noël est très... est très, je dirais, délimité dans le temps. Et en fait, on considère que le 6 janvier, c'est le Noël des femmes ou le petit Noël. Et en fait, pourquoi il dit ça ? Parce que en fait, c'est le dernier jour donc de la saison des fêtes de Noël. Et grands seigneurs que sont nos amis irlandais, et je dis ça bien sûr en rigolant, hein, je manque de respect à personne, c'est le jour où ils évitent aux femmes toute tâche ménagère. Et donc c'est les hommes en fait qui restent à la maison, qui vont pas au travail et qui retirent eux-mêmes toutes les décorations de Noël, puisqu'en fait ça porte malheur de les garder trop longtemps, et qui préparent à manger pour toute la famille. Voilà, voilà.
Tradition que je vais peut-être adopter alors cette année.
Je sens que je vais mettre le petit Noël plusieurs fois par an.
Ouais, c'est ça.
Alors moi, Anne-Fleur, je voudrais rebondir sur ton voyage en Irlande. Là, tu nous as emmenés en Irlande pour parler des festivités de Noël. Et j'ai une petite anecdote. Vous savez sûrement, grâce aux films de Noël qu'on peut voir à la télé, qu'on laisse des cookies et un verre de lait pour le Père Noël. Eh bien, en Irlande, ce n'est pas du lait et des cookies, mais un verre de Guinness, un verre de whisky et un plat de pain de viande. On laisse au Père Noël pour se réchauffer.
Un petit truc léger, quoi.
C'est ça.
Excellent.
J'arrive tout de suite. Je déménage direct.
Tu es fan de whisky ?
Non, pourtant, non.
Je me demande comment ça se passe. Après, par contre, si le Père Noël a un Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Parce que pour s'arrêter à chaque maison avec du whisky, ça doit être un peu compliqué.
Il a le GPS intégré dans son Renault.
C'est ça.
Dans son réseau.
Covid.
Ouais, c'est Rudolf.
Avec son nez rouge.
On sait pourquoi il est rouge, le nez, maintenant. Il va prendre un masque.
Mystère dérésolu.
Super. Et alors, du coup, au-delà de toutes ces traditions, on avait une autre question côté podcast. Anne-Fleur, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu les reviews du podcast, comment ça marche et pourquoi c'est important?
Ouais, carrément. Mais justement, en parlant de Noël, ceux qui ne nous ont pas laissé de review sur le podcast, si vous voulez nous faire un petit cadeau, n'hésitez pas à aller sur votre iPhone, laisser un petit 5 étoiles et un petit mot. Et alors, pourquoi on vous embête même avec ça? On vous le demande régulièrement. C'est qu'en fait, pour nous, c'est... En gros, je vais recommencer depuis le début. Apple Podcast, donc l'application native de l'iPhone pour écouter les podcasts, c'est l'application la plus utilisée au monde pour les podcasts. Et en fait, ça reste l'application de choix qui nous permet de nous faire connaître en fait de nouveaux auditeurs, donc de gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, plus on va avoir de reviews, donc de petits avis que vous allez pouvoir écrire en disant vous faites un travail fantastique, par exemple, bien sûr. et plus on va avoir de bonnes notes, donc on peut noter de 1 à 5 étoiles. Si possible, mettez-nous 5 étoiles. Et ben plus on aura tout ça, plus on a de chances en fait d'arriver sur la page d'accueil de l'application, qui et donc du coup en fait donc de toucher de nouveaux auditeurs.
Effectivement. Donc je le reprécise, ce serait vraiment un super cadeau de Noël que vous pourriez nous faire en laissant une petite review comme vient de vous l'indiquer Anne-Fleur.
Voilà. Merci d'avance. Et je sais que c'est pas juste parce que des fois on nous écrit justement Manon reçoit souvent des messages qui disent ouais mais moi je suis sur Android etc. Bien sûr que ça compte si vous nous suivez sur Spotify, sur Deezer etc. C'est clair. Mais c'est vrai que ce qui va vraiment nous aider nous c'est enfin ce qui va nous aider beaucoup plus sur le long terme, c'est Apple. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout en ce qui concerne ce petit tour du monde, en tout cas des États-Unis, des traditions de Noël. Je vous remercie d'avoir écouté, puis les filles, je vous remercie d'avoir joué le jeu, c'était super sympa. Pour les auditeurs, j'espère aussi qu'on a pu répondre à vos questions, en tout cas vos questions les plus fréquentes. Si vous en avez d'autres, on est toujours joignable sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez que la plupart du temps, c'est Manon qui vous répond. Et puis aussi sur notre site, vous pouvez nous envoyer un mail directement et on se fera un plaisir d'y répondre. Et il y a des chances que ce soit Charlotte. Pour finir, moi, je voulais quand même vous féliciter, les filles Charlotte, Manon, Laetitia, parce que on en est aujourd'hui à l'enregistrement de notre 20e épisode. On a commencé le podcast avec Laetitia le 7 octobre dernier, que toutes les deux. Depuis, l'équipe, bah voilà, elle a doublé. On est passé de 2 à 4. On a publié donc il y a moins de 3 mois notre premier épisode et aujourd'hui, on en a déjà 20. Et voilà. Donc je voulais vous dire un grand merci. Et en plus, un truc d'absolument dingue, il y a quelques jours à peine, on vous annonçait qu'on dépassait les 20 000 écoutes. Et depuis, on a en fait dépassé les 30 000 écoutes, ce qui est complètement fou. Merci beaucoup. Donc un immense merci à tous pour votre fidélité, pour votre enthousiasme et une autre manière de nous aider à rester... émotivé et voilà quoi, c'est vachement encourageant. N'hésitez pas aussi à partager le podcast en fait avec je sais pas un futur expat qui voilà, quelqu'un qui cherche qui se pose la question est-ce que je vais partir vivre à l'étranger ou pas, ou quelqu'un qui est déjà parti et qui aimerait bien rejoindre notre communauté,
ou quelqu'un qui rêve de partir et qui n'est pas encore qui n'a pas franchi le cap ou qui ne peut pas franchir le cap. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui s'évadent grâce au podcast, même si c'est pas forcément dans leur projet futur de partir.
Bon, et justement les filles, donc c'est bientôt Noël, on a quand même énormément de merci à donner et à partager à notre communauté, et du coup on a décidé en fait de vous gâter. Alors, on lance un concours sur Instagram, vous avez quelques jours, aujourd'hui donc on est le 19 décembre. Les règles sont très simples, direction Instagram, vous allez trouver la vignette de l'épisode, la photo de l'épisode, vous la repartagez en story, en mode public bien entendu, pour qu'on puisse la voir. Vous nous taguez et on va faire un tirage au sort. On a chacune choisi des souvenirs de notre coin du monde, donc de Grenoble, de Boston, de Houston et de New York. Et la personne qui sera tirée au sort donc recevra des petits cadeaux de chez nous. Bonne chance et bon courage. Le tirage au sort aura lieu le jour de Noël, le 25 décembre.
Bon, eh ben écoutez, je crois que qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacune pour la suite et au podcast pour 2020 en ces temps de fin d'année?
Ah bah, je pense que pour le podcast, qu'on continue sur cette même lancée, qu'on ait plein de partages, plein de nouveaux auditeurs et puis et puis des interviews toujours aussi passionnantes.
C'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, Charlotte, et toi, Manon ?
Ah, alors bah, pour le podcast, bah, surtout pour les réseaux sociaux, toujours une super communauté, plein de personnes avec qui j'adore échanger, j'adore répondre aux commentaires, aux messages, donc toujours une communauté motivée et qui grossisse toujours plus, ça serait top. Et puis pour moi, eh ben, je sais pas, bonne question. Ah si, pour moi, pour l'année prochaine, ben, j'aimerais que mes proches viennent me rendre visite à Houston, beaucoup de visites. Parce que j'ai quand même acheté un canapé lit convertible, donc c'est pas pour que ça va rien.
J'aimerais bien le rentabiliser, quoi. D'accord, bah t'as bien raison. Et toi, Charlotte ?
Alors, pour le podcast, bah, qui continue sur cette belle lancée, que de plus en plus de personnes nous contactent, je me fais un plaisir de leur répondre, de créer avec Laetitia, Anne, Fleur et Manon des épisodes inspirants. Et pour moi, peut-être enfin mon permis de travail. Ça fait plus de 6 mois que j'ai fait la demande et j'attends toujours. Donc, croisons les doigts.
Écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite. Carrément. Bon, bah, en tout cas, un grand merci à vous les filles, un grand merci à nos auditeurs. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, que vous fêtiez Noël ou non. Et puis, on vous souhaite aussi une super année 2020 et on vous retrouve en janvier.
Merci Anne-Fleur et merci à tous.
Belle fête de fin d'année.
Joyeux Noël.
Merci.
Et voilà, cet épisode spécial de Noël touche à sa fin. On vous remercie infiniment à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que vous aurez bien rigolé avec nous et que vous aurez apprécié les découvertes. De notre côté, on va prendre un petit break pour les vacances et pour les fêtes de fin d'année qu'on va essayer de passer tranquillement, se reposer en famille. On vous retrouve dès début janvier. Je crois que le premier épisode est prévu pour le 6 janvier. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Comme d'habitude, n'oubliez pas, et surtout parce que c'est Noël, si vous voulez nous faire plaisir, si vous voulez nous gâter, n'hésitez pas à vous rendre directement sur votre application iPhone de podcast pour nous laisser 5 étoiles et un petit avis, ça nous fera hyper plaisir et ça nous garde hyper motivés. Merci beaucoup et à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.